La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour notre dernière chronique santé naturelle de la saison. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous avons sélectionné des rediffusions de l'émission de La Panacée à écouter tout l'été. Alors aujourd'hui, je serai avec Issa pour animer l'émission de La Panacée.
Bonjour, bonjour Issa. À tous.
Si vous avez déjà essayé de prendre soin de votre microbiote, vous avez sans doute été confronté à une réalité assez déroutante. Il y a une offre absolument gigantesque de probiotiques, de prébiotiques, de psychobiotiques et même maintenant de postbiotiques. Les rayons des pharmacies sont plutôt bien remplis, il y a énormément de publicités prometteuses sur des effets par rapport à l'immunité, la digestion et j'en passe. Il y a des compléments alimentaires qui sont en gélules, en poudre, d'autres sous forme de boissons fermentées. Donc il s'agit clairement d'un secteur qui est rentable, porté par un intérêt croissant pour la santé naturelle, mais aussi par une certaine simplification, parfois une exagération des bénéfices. Alors on vous vend souvent l'idée séduisante qu'il suffirait d'avaler une gélule pour rééquilibrer tout votre organisme. La réalité est un petit peu plus nuancée et ce sera le sujet du jour, alors restez avec nous.
Bonjour Malika Cécile, naturopathe, biologiste et chroniqueuse pour Radio Escapade. Avant de nous parler des probiotiques, pourrais-tu nous aider à comprendre leur terrain d'action, c'est-à-dire le microbiote intestinal ?
Notre microbiote intestinal, notre intestin, abrite environ 100 milliards de micro-organismes, bactéries, levures, virus, soit plus que le nombre total des cellules dans notre corps. Alors c'est quand même difficile à imaginer. On pourrait le comparer à une sorte de forêt tropicale, ce microbiote. Il est riche, diversifié et essentiel à l'équilibre global, ici notre corps. Ce microbiote joue un rôle clé pour notre santé, puisqu'il permet la digestion des fibres. Il permet de produire également certaines vitamines, comme la vitamine K ou certaines vitamines du groupe B. Il protège contre des agents pathogènes et il participe au système immunitaire. L'équilibre du microbiote intestinal est fragile. Il peut être perturbé par le stress, une alimentation qui est déséquilibrée, la prise importante d'antibiotiques sur du long terme, et même le manque de sommeil. Donc c'est là que peuvent intervenir nos héros du jour, c'est-à-dire les probiotiques vs prébiotiques.
Alors, probiotiques, prébiotiques, je ne suis pas bien sûr que la distinction soit évidente pour tous nos auditeurs et auditrices. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser ça ?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, on confond souvent les deux, donc on va prendre le temps de clarifier. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants, et la définition donc officielle, c'est que lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, ils vont produire un bénéfice pour la santé. À la différence des bactéries déjà résidentes de notre intestin, les probiotiques voyagent par le tube digestif, mais ils ne le colonisent pas durablement. Donc malgré ce temps de passage relativement court, ils vont pouvoir être bénéfiques et efficaces sous certaines conditions. C'est-à-dire que le complément alimentaire doit contenir un grand nombre de bactéries, il doit être capable de résister à l'acidité de l'estomac et à l'action des sels biliaires. C'est important que la personne ait également un bon mucus intestinal pour que ces bactéries puissent s'y fixer un minimum. Et qui est dans l'intestin des sucres simples, certains sucres simples, dont ces bactéries probiotiques vont pouvoir se nourrir. Ces sucres simples, ou fibres alimentaires non digestibles, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques, en fait. Autrement dit, les prébiotiques servent de nourriture aux probiotiques.
D'accord, on y voit un peu plus clair, je pense. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu viens de dire. Les probiotiques ne colonisent pas durablement le microbiote. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait ?
Alors, oui, souvent, les personnes sont surprises quand je leur explique que c'est pas parce qu'ils ont pris des probiotiques que les bactéries de la gélule vont rester dans leur corps. Il y a des études qui suivent directement les souches probiotiques via des analyses de sel. Et donc ces études montrent que des souches comme Lactobacillus rhamnosus, vont être détectables dans les selles pendant la prise du probiotique et qu'ensuite elles vont disparaître en général entre 3 à 7 jours après l'arrêt de la complémentation. Un autre exemple, avec Bifidobacterium animalis, sa présence elle est maintenue pendant la consommation du complément alimentaire probiotique et elle est éliminée en environ une semaine. Pour les mélanges de souches, ce qui est plutôt classique, c'est rare de prendre une seule souche de probiotiques, l'élimination elle est progressive et elle dure entre 1 à 2 semaines maximum chez la majorité des individus. Il y a différentes revues de référence qui ont conclu donc que les probiotiques ne colonisent pas durablement l'intestin et que leur présence elle est transitoire, avec une résistance généralement inférieure à 2 semaines après arrêt. Certaines personnes éliminent même beaucoup plus rapidement les probiotiques et ça ne reste que 2-3 jours dans l'intestin. Je pense que simplement avec cette information, beaucoup de nos auditrices et auditeurs réalisent qu'il ne s'agit pas d'un produit miracle et que déjà au niveau du marketing, il peut y avoir un pas de recul qui peut être fait.
Malika Cécile, là tu viens de nous préciser le temps de passage très court des probiotiques dans notre organisme. Y a-t-il une distinction à faire avec la durée des effets attendus ? Et est-il possible d'augmenter le temps de passage des probiotiques dans notre intestin ?
Ben merci de poser cette question parce que c'est souvent ce qu'on me demande aussi. Donc il est intéressant de distinguer effectivement la présence physique des probiotiques dans l'intestin, ça dure 2 jours à 2 semaines on va dire, et la durée des effets physiologiques ressentis qui sont souvent plus longs. Ça peut sembler étonnant, mais même après la disparition des bactéries probiotiques, certains effets perdurent. Comme la modulation du système immunitaire, qui va durer quelques jours à quelques semaines après l'arrêt des probiotiques. L'amélioration digestive aussi peut durer jusqu'à 3 semaines.
Alors j'ai du mal à comprendre pourquoi les effets durent même après la disparition des probiotiques dans l'intestin.
Ouais, je comprends moi aussi, j'ai dû réfléchir un peu à la question. En fait, c'est pas la bactérie qui reste, mais l'effet qu'elle a déclenché. Quand on prend des probiotiques, ça va modifier temporairement notre environnement intestinal. Ça va modifier le pH, il va y avoir des métabolites qui vont rester. Et en fait, tout ça, ça va influencer notre système immunitaire, ça va interagir avec le microbiote existant, et c'est cet effet-là qui va durer un petit peu plus longtemps.
Ok, merci d'avoir précisé. Peut-on trouver des probiotiques ou des prébiotiques naturellement dans l'alimentation, Malika Cécile ?
Oui, alors vous trouvez des probiotiques naturels dans les yaourts fermentés, comme le kéfir, dans les boissons fermentées aussi, comme le kombucha ou le kéfir qu'on fait nous-mêmes avec figues et citrons, par exemple. Il y a aussi les légumes lacto-fermentés, donc la choucroute, c'est bien connu. Le kimchi, c'est absolument délicieux. Et en fait, tous les légumes peuvent être lacto-fermentés. Vous pouvez faire ça avec des carottes, du chou, de la betterave, voilà. Et franchement, pour avoir testé quelques recettes de légumes lacto-fermentés, j'avoue que c'est vraiment, vraiment délicieux. Et qu'au-delà de se faire du bien, on se régale, quoi. Concernant les prébiotiques alimentaires, donc vous l'avez compris, ça va être ce qui va nourrir les probiotiques, les bactéries naturellement présentes dans notre corps aussi. Ce sont des fibres et elles nourrissent généralement les bonnes bactéries qui sont déjà présentes. Donc contrairement aux probiotiques qui apportent des bactéries, les prébiotiques vont stimuler celles qui existent déjà et leur effet est beaucoup plus durable. Donc par exemple, vous pouvez consommer de l'ail, du poireau, des asperges, de la chicorée, des topinambours, de la banane, des légumes secs comme des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges et des céréales complètes. Typiquement sur les menus, si vous faites un porridge d'avoine le matin avec pommes bananes et des lentilles carottes le midi, vous aurez déjà énormément de prébiotiques, pour nourrir vos bactéries. Et concrètement, ces prébiotiques restent actifs tant qu'on en mange et ils peuvent modifier durablement la composition de notre microbiote. Les effets peuvent durer des mois. Si cette consommation elle est régulière. Donc pour moi, ça ressemble quand même à une très bonne stratégie. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de consommer ce type d'aliments prébiotiques, donc avec ces fibres qui ne sont pas digérables, introduisez-les progressivement dans votre alimentation pour éviter d'avoir des ballonnements. Nous allons faire une courte pause musicale avec le chant Mera Man Loche, interprété par Guru Raj Kaur et Nirijan Kaur, Healing the Wounds of Love.
Thank you.
bienvenue à celles et ceux qui nous retrouvent sur Radio Escapade pour la suite de l'émission La Panacée. Aujourd'hui avec Malika Cécile, nous faisons un tour d'horizon des probiotiques et des prébiotiques. Nous sommes d'accord sur le fait que tous les prébiotiques ne se valent pas. Il existe des centaines de souches et chacune en a des effets spécifiques. Peux-tu nous éclairer Malika ?
Alors oui, le microbiote intestinal, c'est un écosystème qui est complexe, composé de milliards d'organismes, parmi lesquels les lactobacillus occupent une place de premier plan. Ce sont des bactéries qui collaborent avec d'autres micro-organismes pour maintenir l'équilibre nécessaire à une bonne santé digestive et immunitaire. Le lactobacille, en particulier, se distingue car il a une capacité à produire de l'acide lactique. Ce processus aide à maintenir un pH légèrement acide dans l'intestin. Et ça, c'est une condition qui est défavorable à la prolifération des pathogènes. Par contre, ça va être favorable aux bactéries qui nous sont bénéfiques. Le lactobacille influence également les fonctions digestives. Il aide à dégrader les sucres qui sont complexes et à digérer le lactose. Il favorise l'assimilation optimale des nutriments. Le lactobacille participe aussi à la synthèse de vitamines essentielles, donc comme la vitamine K et certaines vitamines du groupe B, donc on en a déjà parlé en première partie d'émission. Et il soutient le métabolisme et le fonctionnement du système nerveux. On peut également parler des bifidobactériums, donc c'est une autre catégorie de bactéries, qui vont être pas mal présents dans le côlon aussi. Et dans les grandes lignes, ils renforcent l'immunité, ils améliorent également le métabolisme énergétique et ils aident à lutter contre l'inflammation. On peut résumer les moyens d'action des probiotiques parce qu'ils ont des actions qui sont multiples et ça va différer d'une souche à l'autre. Donc, ce qui est communément partagé avec les différentes souches, donc là on en a cité deux, mais il en existe vraiment beaucoup. Donc ça améliore la fonction barrière de l'intestin. Ça régule la réponse immunitaire. Il va y avoir une activité qui peut être bactéricide en produisant ce qu'on appelle des bactériocines. Ce sont des acides organiques. Il peut y avoir aussi des acides gras à chaîne courte qui sont produits ou du peroxyde d'oxygène. Donc, ce sont des composés que les bactéries peuvent produire et ça va limiter la prolifération de bactéries qui peuvent nous être néfastes. On peut aussi dire que nos bactéries bénéfiques favorisent la régulation de l'inflammation localement, que ça permet de produire des neuromédiateurs. Alors, neuromédiateur, c'est un mot qui fait peur, mais vous entendez souvent parler de la sérotonine, de la dopamine, etc. Donc, ça nous aide à ça aussi, les bactéries. Et ça permet donc, forcément, quand on parle de sérotonine, de dopamine ou de GABA, ça permet d'améliorer nos états émotionnels. Les probiotiques peuvent provoquer parfois des effets secondaires, mais c'est très très léger. Ça peut être des troubles du système digestif, comme des ballonnements, ou parfois des diarrhées, mais c'est quand même rare. Et en tout cas, si ça arrivait, arrêtez la supplémentation et parlez-en à votre médecin.
Ok, donc face à l'affluence de tous les choix, comment est-ce qu'on pourrait bien choisir ces probiotiques ?
Alors, il y a quelques repères simples que vous pouvez avoir. D'abord, il faut regarder les souches de bactéries. Est-ce qu'elles sont précises ? Parce qu'un bon produit va mentionner le nom complet. Par exemple, Lactobacillus, Rhamnosus, GG. Et pas simplement ferment lactique. Donc, si vous voyez ferment lactique, vous savez que vous êtes déjà sur un produit de moins de qualité. C'est bien aussi de vérifier qu'il y a le nombre suffisant de bactéries. Et souvent, c'est indiqué en UFC, ce qui veut dire unité formant colonie. Et les doses efficaces sont généralement entre 1 mais plutôt 10 milliards d'UFC, selon les besoins et les souches. Par ailleurs, choisissez votre probiotique aussi en fonction de votre besoin et de vos objectifs santé, puisque en fonction des bactéries, on l'a vu, il va y avoir un effet plus ou moins marqué sur la digestion, donc c'est le cas des lactobacillus, ou bien sur le système immunitaire, c'est le cas des bifidobactériums. Et souvent, quand il y a des diarrhées, on va plutôt prendre une levure, ça on le trouve souvent facilement, c'est le Saccharomyces boulardii. Ensuite, il y a la durée de prise des probiotiques. Ça, c'est un peu au cas par cas, généralement entre 3 semaines et plusieurs mois. Et ça, c'est bien d'en discuter avec un professionnel de santé. Enfin, n'oubliez pas que les prébiotiques ne remplacent pas une bonne alimentation et que leur durée d'efficacité, elle est limitée dans le temps. En revanche, une alimentation qui apporte des fibres adéquates, elle va nourrir vos propres bactéries, vos propres bonnes bactéries même, avec un effet beaucoup plus durable.
Et dans quel cas la prise de probiotiques peut-elle être utile?
Alors, ça peut être intéressant dans différentes situations. Donc, on l'a vu, il y a certaines souches qui aident à mieux digérer le lactose. Donc, quand on n'arrive pas à réduire les produits laitiers dans son alimentation et qu'on ne les supporte pas, bon, bah, il y a des souches lactobacilles qui peuvent être intéressantes. Il y a des personnes qui souffrent du syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Et souvent, la prise de probiotiques, ça les aide à réduire les ballonnements, ça améliore leur transit, ça réduit l'inflammation. Et globalement aussi, ça permet de lutter contre la porosité intestinale. Je ne sais pas si vous le saviez, mais 70 à 80% de notre système immunitaire se situe dans l'intestin. Donc quand on a un microbiote équilibré, ça permet une bonne défense contre les infections et on a une réponse immunitaire qui est adaptée. Et il y a des personnes qui sont allergiques. Et quand on est allergique, on a une réponse immunitaire qui n'est plus adaptée. Donc souvent, les personnes allergiques, quand on regarde, eh ben, elles ont un microbiote qui est moins diversifié que les personnes qui ne le sont pas. Il y a certaines études qui montrent que les probiotiques peuvent réduire la sévérité des allergies saisonnières pardon, et moduler la réponse immunitaire. Alors comment ? Eh ben, l'intestin, c'est un organe immunitaire majeur. Les probiotiques vont interagir avec lui et renforcer la tolérance immunitaire, c'est-à-dire ne pas surréagir à des substances inoffensives comme du pollen, typiquement en ce moment. Ça permet de réduire les réponses allergiques, donc ce qu'on appelle type TH2, et ça va soutenir les cellules régulatrices immunitaires, les Treg. En gros, ils aident le système immunitaire à être moins réactif inutilement. Ils peuvent aussi améliorer ce qu'on appelle la jonction entre les cellules intestinales. Et quand c'est trop détendu, c'est un peu comme si vous imaginiez les mailles d'un pull en laine qui sont étirées. Bon, bah ça, c'est pas très bon et du coup, il y a des allergènes qui peuvent passer dans le sang. Donc, quand on améliore cette jonction des cellules, bah, y a moins d'exposition, il y a moins d'allergènes qui passent dans le sang et du coup, ça réduit aussi les réactions allergiques.
On parle souvent de l'axe intestin-cerveau. Est-ce que les bactéries de notre intestin ou les probiotiques peuvent influencer notre état psychique ou émotionnel ?
Notre microbiote communique avec le cerveau via le nerf vague. Et ça, on en a fait une émission. Donc, vous pouvez regarder dans les podcasts sur le site de Radio Escapade. Et l'intestin, il est connecté au cerveau via ce nerf vague. 80-90% des fibres du nerf vague remonte de l'intestin vers le cerveau. Ça passe aussi au niveau des poumons, etc. Il y a quand même une grosse partie, c'est intestin-cerveau. Ce n'est pas le cerveau qui commande, mais c'est aussi l'intestin qui informe. Ça part de l'intestin, ça remonte vers le cerveau. Alors, les bactéries ne parlent pas directement au cerveau, mais elles vont utiliser des messagers chimiques ou des métabolites. Et par exemple, certaines bactéries produisent des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, le propionate, et d'autres vont produire des neurotransmetteurs, comme les GABA, qui sont calmants, et la sérotonine, qui est associée au bien-être. Donc, des lactobacillus peuvent influencer la production de GABA, et donc avoir des effets sur le stress. L'intestin, c'est quand même un réseau énorme de neurones, et ces métabolites bactériens produits vont stimuler ces neurones, puis ces neurones vont activer le nerf vague et le nerf vague va informer le cerveau qui va pouvoir modifier notre état mental. Donc c'est comme une chaîne. Les bactéries produisent des molécules qui peuvent avoir un effet calmant ou un effet sur le bien-être. Ces molécules vont stimuler les neurones intestinaux. Pouf, ça arrive au nerf vague qui va remonter l'information au cerveau. Donc c'est quand même intéressant de rappeler ça.
Alors, il me semble que les probiotiques sont étudiés dans le cadre du déclin cognitif, non ?
Oui, c'est un sujet émergent et prometteur. Ça part du constat qu'un microbiote déséquilibré pourrait favoriser l'inflammation chronique. Et cette inflammation chronique, elle peut jouer un rôle dans le déclin cognitif. Donc l'idée, ce serait de réduire cette inflammation chronique intestinale, notamment grâce à la prise de probiotiques. Donc ça, c'est à l'étude.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Malika. L'émission touche à sa fin. Que souhaites-tu nous dire en conclusion ?
Que retenir de tout cela ? On pourrait dire que les probiotiques et les prébiotiques, ce sont des outils précieux. Mais ce n'est pas magique. Ça agit en soutien, temporairement. Et c'est plutôt à intégrer dans une approche globale. Si vous prenez des probiotiques et que vous continuez de manger de la junk food, ce n'est pas intéressant. Cette efficacité, elle va dépendre de la souche que vous choisissez ou des souches de bactéries que vous choisissez, de la quantité de petites bêtes qu'il y a dans vos probiotiques, de la durée de la complémentation et de votre contexte à vous. Pourquoi vous voulez prendre des probiotiques, en fait ? Donc, choisissez en fonction de ça. Et enfin, le meilleur allié de votre microbiote, ça reste quand même votre alimentation. Qu'elle soit variée, peu transformée, ça on est d'accord. Mais du coup, aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est important qu'elle soit riche en fibres parce que ce sont des prébiotiques naturels et ça va nourrir durablement vos propres bactéries. Merci pour votre écoute et avec Issa, on vous souhaite un très bel été.
Merci Malika, Cécile, naturopathe et chroniqueuse pour Radio Escapade. Bon été à tous.
La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux.